Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourde, de Tata
Roussanou.
Verratti, là, tu la baraque, et puis Marquitos.
Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
L'afterfoot en direct de Lyon.
Gilbert Dubois.
La dernière heure de l'after ici en direct de Lyon République. Passez nous voir si vous êtes dans le coin, bien sûr. C'est ouvert à tout le monde. Il y a encore pas mal de monde. Hein. Ils sont tous là encore pour le quiz tout à l'heure notamment. Et pour écouter le drôle de dame avec Florent Gautreau, Frédéric Piquionne, avec Daniel Riolo, avec toujours Edouard et Thierry, Edouard G et Thierry de Rouges et Bleus qui nous accueillent ce soir, qui potassent pour le quiz. Fred, Polo, Julien, Simonet, on va parler Ligue des Champions avec vous. Julien, Liverpool, attention au piège demain soir. Hein. En fonction de ce qui se passe, Liverpool pourrait se faire éliminer.
Attention, tu as raison, effectivement. Ils pourraient donc être éliminés en cas de défaite à Salzbourg demain soir. Ce qui serait une première hein, pour un champion d'Europe en titre d'être éliminé dès la phase de poule. Je crois que le dernier, c'est peut-être Chelsea en 2012, après être champion d'Europe en 2012, la saison 2012-2013, qui vont ensuite, ils vont ensuite remporter l'Europa League, mais ils sont éliminés dans la phase de poule de la Ligue des Champions. C'est pas
est-ce
nouveau.
Qu'on y croit vraiment cette... Est-ce que c'est évoqué à... Est-ce que des gens jouent à se faire peur à Liverpool avec ça?
Alors, on se dit ici que c'est pas la première fois, puisque si tu te rappelles bien, Daniel, depuis l'arrivée de Klopp au club, ils se qualifient à chaque fois lors de la dernière journée des matchs de poule. Donc, ils ont déjà été dans cette situation où ils abordaient le dernier match de poule en n'étant pas encore qualifiés et en ayant cette possibilité d'être éliminés aussi. Rappelle-toi la saison dernière contre le Napoli à Anfield. Si Alisson ne sort pas la frappe de Milic à la dernière minute, ils sont éliminés. C'est le Napoli qui se qualifie pour les huitièmes de finale. Donc c'est pas nouveau. Ils ont ce genre d'expérience là avec eux. Klopp a ce genre d'expérience. Donc ils sont pas en train de paniquer. Mais tu sais quand même qu'il y a la possibilité. Ce serait énorme.
Ce serait une catastrophe pour le club.
Alors ce serait pas une catastrophe dans le sens où ils pourraient ensuite.
Où ils vont être champions d'Angleterre.
Voilà, ils vont tout donner pour la
chaîne. Ligue des Champions avec le titre de champion d'Angleterre, ça pourrait presque paraître anecdotique.
Exactement. Finalement, il leur laisserait plus que le championnat qui serait la priorité. Ça fait 30 ans qu'ils l'ont pas gagné. Et cette saison, plus que tout, ils veulent absolument la première ligue. Bien sûr, s'ils peuvent rajouter une autre Ligue des Champions, ils le feront. Ils en ont déjà gagné 6, ça ferait une 7e. Mais plus que tout au monde, c'est la première ligue qu'ils veulent. Et si ça passe par une élimination précoce en Ligue des Champions, ils seront déçus forcément. T'es champion en titre, tu veux pas non plus te faire éliminer à la phase de poule. Mais ça voudrait dire aussi. Ça voudrait dire aussi que tu peux tout jouer maintenant sur le championnat. T'as 8 points d'avance sur Leicester, t'as 14 points d'avance sur Manchester City, t'es dans une super position. Et finalement, ne jouer qu'une fois par semaine. Tu vois, et dans ce cas-là, c'est vrai, pour ça, ce serait pas forcément très négatif, mais ça ferait quand même un petit peu tâche.
Fred, Messi ne jouera pas demain à l'Inter. Et pourtant, le Barça n'est pas qualifié. Hein.
Si, le Barça est qualifié.
Le Barça est qualifié.
Premier. Le Barça n'a aucun enjeu.
C'est ça.
Ouais, il y a aucun enjeu.
Donc ça veut dire qu'il y va pas parce qu'on le ménage.
Ah, parce qu'on le ménage, parce que Piqué n'y va pas non plus, parce que Sergi Roberto n'y va pas non plus. Alors je sais bien que on peut critiquer la décision de l'entraîneur de Valverde de falsifier entre guillemets la compétition, etc. Mais enfin le Barça a fait son travail.
Franchement, ça va.
Il y a toujours des gens. Parce que si jamais l'Inter gagne,
par exemple, qui joue la qualif à distance avec l'Inter, ils peuvent peut-être faire la gueule.
Ah ben bien sûr.
Le Borussia.
Ben bien sûr, c'est pour ça. C'est pour ça que je le dis. Mais le Borussia n'avait qu'à faire son boulot avant.
Il a gagné avant aussi.
C'est ça. Là-dessus, le Barça, tout à fait raison. Attendez, le Barça, pour parler du calendrier, il joue à Saint-Sébastien samedi, qui est quand même l'une des meilleures équipes de la Liga, qui joue sûrement le plus beau football. Et puis il y a le Classico contre le Real mercredi prochain. Je veux dire, ce serait une grave erreur. Et moi, je vais même je trouve même qu'il n'est pas allé assez loin, Valverde. Moi, je serais allé avec l'équipe B, quoi, parce que.
De toute façon, Fred, d'une manière générale, c'est souvent ce qu'on entend dans les fins de saison ou les fins de poule, ces histoires de il fausse la compétition, mais toujours c'est un ridicule. Débat que je trouve d'une connerie absolue.
Ouais, mais tu sais qu'il existe.
C'est qualifié.
Tu sais, voilà.
En fait, c'est les autres qui font ça, soit parce qu'ils n'ont rien à dire, soit parce qu'ils sont jaloux et que leur équipe est dans la merde.
C'est tout.
Tu gères ton effectif, tu t'es qualifié avec ton club, t'en as rien à cirer du reste, quoi.
De la même manière que le Real ne peut pas prétendre à la première.
Et ça veut dire qu'en final, il va mettre Messi qui ne va pas courir.
Ou Messi, ou qui risque de se blesser. T'imagines si Messi se blesse alors qu'il y a deux matchs décisifs là, dans, ce week-end. C'est de la même manière que le Real, il n'y a pas Kroos pour jouer à Bruges. Le Real est sûr d'être deuxième. Il ne peut pas être premier, il ne peut pas être éliminé. Donc voilà, pareil, il va faire tourner. Il y a Jovic qui va jouer. Ce serait totalement
bien sûr
pour les entraîneurs de ne pas faire tourner à mort, même si on est dans une dernière journée de Ligue des Champions.
Non mais Fred, d'ailleurs on en avait parlé récemment, c'est aussi plutôt une bonne chose par rapport à la carrière de Messi, parce qu'à une époque Messi demandait à jouer même ces matchs-là,
même ce genre de match-là.
Alors que là justement, même lui a peut-être compris qu'il fallait en laisser passer en mode Cristiano à une époque. Il a changé un peu d'avis là-dessus, et puis de toute façon voilà, la décision revient au coach, et donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui, sa carrière et le reste.
Il reste à Barcelone, c'est ça, hein, il ne fait même pas le voyage.
Ah oui, ben c'est ça. Mais moi, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec Zidane au sujet de Ronaldo. Vous savez, quand il faisait, à partir de la saison 2016-2017, Ronaldo manquait un match sur cinq de Liga. Quand c'était à Las Palmas, ce que m'avait expliqué Zidane, c'était, mais en fait, c'est pas le fait de jouer ou de pas jouer. C'est le fait que, tu prends l'avion, tu te déplaces, tu prends le bus, on sait très bien que c'est fatigant, ça. Donc, Messi reste à la maison tranquille avec ses enfants et sa femme. Et c'est de l'énergie qu'il ne perd pas dans des déplacements.
C'est pas comme s'il avait mis un triplé ce week-end en plus.
En plus, t'imagines. Mais non, mais il a pas besoin de ça. Et ça veut dire quoi? Mais c'est intéressant. Ça veut dire que Messi, l'autre jour, quand il a reçu Ballon d'Or, il évoquait déjà le mot retraite. C'est-à-dire qu'il a conscience de son âge. Il sait très bien que pour prolonger sa carrière, sa vie sportive, il faut qu'il fasse attention à lui. Et Messi, il s'en fout d'être le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Voilà, il n'a pas besoin d'aller jouer à l'Inter.
Il a le ballon d'or, de toute façon, quoi qu'il arrive.
Mais voilà, mais par rapport, tu sais, parce qu'à un moment, Cristiano Ronaldo et Messi, ils se tiraient la bourre pour le meilleur buteur de la Liga, meilleur buteur de la Ligue des Champions, ouais, etc. Mais il y a un moment où ses records personnels, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, ce sont des titres et faire attention à eux. Et moi, je trouve que l'entraîneur Valverde n'est même pas allé assez loin, parce que le groupe qui va se déplacer à Milan, il est quand même très sérieux.
Donc on dit quoi à Milan du coup, Simonet? On dit merci Valverde?
Oui, on dit merci Valverde. Déjà, je vous donne ce que on m'a donné la compo de Barça. Il y a quand même des titulaires. Il y a Suarez, Griezmann, Rakitic et Vidal. Bon, ça c'est les titulaires qui devraient jouer. Valverde en conférence de presse a dit que c'est Neto les gardiens. Il y avait Junior Firpo qui devrait jouer à gauche, Vague, Umtiti, Todibo, Alena, Pérez. C'est pas.
Carles Pérez,
c'est la meilleure équipe du Barça.
Non, mais enfin, Carles Pérez, c'est un joueur de l'équipe B qui, quand il y avait beaucoup de blessures au début de saison, il était titulaire de 3 matchs. Todibo, il joue jamais, c'est l'occasion. Carles Alagna, qui est l'un des grands espoirs du club, qui n'a pas encore explosé. Voilà, on donne l'occasion aussi. Mais en plus, quand on parle de ça, il y a des joueurs qui peut-être un match sans enjeu n'auraient pas forcément été très motivés, alors que là tu as des joueurs qui ont besoin de se montrer, donc ça peut être aussi dangereux. Ils sont moins forts que les autres, enfin un Carlos Alagna qui est quand même talentueux, il va se défoncer sur le terrain dans un match où un autre n'aurait pas forcément mis le pied, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là.
C'est le frère de Roberto?
Non, il ne chante pas aussi bien, je te pense.
Simonet, t'as quoi d'autre au programme là en Ligue des Champions cette semaine?
Il y a sûrement les déplacements de l'Atalanta à Donetsk, qui en cas de victoire, et si City fait au moins le match nul à Zagreb, l'Atalanta va se qualifier. Ce serait incroyable après ses premiers matchs où il avait perdu 3 matchs face à ses adversaires. Il s'était réveillé avec un point face à City et la victoire face à Zagreb le match dernier. Donc ça pourrait être vraiment un exploit incroyable pour l'Atalanta. Mais pour terminer avec l'Inter, vu qu'aujourd'hui j'ai suivi un peu toutes les conférences de presse, Conte, Godin et toute l'ambiance de l'Inter, il dit oui, merci Messi qui n'est pas là, mais ils ne sont pas sûrs 100% que c'est un vrai cadeau, parce que oui, Messi n'est pas là, mais quand même il y aura, comme disait Fred, beaucoup de joueurs concernés. Pour moi quand même, cet Inter avec toutes les blessures qu'il a, parce que attends, on parle des absents du Barça, il faut dire aussi les absents de l'Inter qui sont Sainz, Ibarrel, Asamoah, Gagliardini, Sanchez et peut-être Candreva, qui est sorti avec un problème au dos vendredi et c'est malin, il ne s'est pas entraîné toute la journée et s'est entraîné à moitié aujourd'hui. Donc, beaucoup de blessures à l'Inter. Quand même, si l'Inter ne gagne pas face au Barça, en Barça B, il y a un gros problème pour moi. L'Inter
c'est quoi
a tous
le résultat
tous les moyens
fait, Simonet? C'est quoi le résultat qu'il faut gagner absolument? C'est quoi les cas de figure?
Si l'Inter gagne, est qualifié. Donc, l'année dernière,
souvenez-vous, le nombre de points. Mais au goal average particulier, c'est l'Inter qui est devant, c'est ça.
Voilà. L'année dernière, l'Inter, c'était suffisant de battre les PSV Eindhoven qui étaient déjà éliminés. Ils ont fait un partout et on était éliminés de la Ligue des Champions. Donc,
et c'est Tottenham qui est passé, qui est allé en finale.
Voilà, imagine.
Alors à Dortmund, on dit quoi, Polo ? Ils font un peu la gueule ou ?
Non, non, pas tant que ça. Bon, on a relevé évidemment que Messi n'était pas là, mais dans le cas de figure, t'as pas le destin entre tes pieds. Donc qu'est-ce que tu veux faire ? Il faut remporter la rencontre contre le Slavia et puis après, voilà, c'est réglé. Le problème, non, l'information, c'est évidemment la blessure de Witzel au visage, qu'il s'est fait à domicile et qui fait qu'il est opéré et qu'il sera absent jusqu'à la fin de.
À domicile, c'est à son domicile. Hein.
À son domicile, ouais.
C'est vrai.
Il est tombé. Et donc, c'est assez grave, apparemment, s'il est opéré. Il y a la faciale, la mâchoire, etc. Donc, c'est.
Il est tombé chez lui.
Donc, il va être absent jusqu'à la fin décembre.
Se fait ce point.
Ah, je sais pas exactement. Il n'y a pas le détail de ce qui a été fait.
Parfois, ton chat te fait tomber dans l'escalier.
Ah bah, tu souviens de Julien Espilé qui s'est blessé en prenant son chien.
C'est ça. Alors, maintenant, les plus belles.
Je me rappelle de ça, ouais.
Et puis, Lionel Gourcuff aussi. En jouant au Scrabble.
Et Gourcuff, c'était à Lyon d'ailleurs qui s'est blessé en promenant son chien. Edouard. Tu confirmes ?
Ah mais il était, ouais, mais, voilà. Il est, ouais, ouais, mais son chien l'avait souvent blessé d'ailleurs. C'est depuis qu'il est.
Et c'est vrai, hein. C'est vrai.
Ah oui, non, c'est
pas une. Ah, tu
Canizares,
c'est la bouteille de parfum.
La bouteille de parfum, mais avec un face que tout le monde a quand quelque chose tombe, tu mets le pied parfois, tu sais, en mode amorti.
Alors vous savez qu'il y a quand même une légende.
Rio Ferdinand, Rio Ferdinand aussi. Hein.
Ouais.
Rio Ferdinand, c'est une des plus belles.
La table de salon.
Ah oui.
Vas-y, Julien.
Allongé sur le canapé. Sur le canapé, il allonge ses jambes sur la table basse du salon. Trop longtemps, pendant 8 heures, il a regardé la télévision. Et ben, il s'est fait une petite élongation des ligaments du genou externe ou un truc comme ça. Et il était out pour 2 mois. Eh oui, c'est.
Mais c'est vrai que si tu mets ta jambe sur la table du salon, ouais. t'es en extension. Et l'extension, quand tu te relèves, c'est très très douloureux.
Simonet, moi j'ai une question pour toi.
La blessure de Nesta. Il a toujours dit que c'était pas vrai, qu'il s'est fait une blessure au tendon pour avoir trop joué à la PlayStation. Donc, il a toujours nié, mais c'est vrai qu'il a eu un problème à la main.
C'est pas la question de Fred,
c'est pas la question, Simone.
Bah, c'est pas ma question. On parlait des blessures, moi je voulais rentrer avec une anecdote. Ouais, moi aussi.
Ça vaudra jamais le contrôle antidopage de Borriello.
Non, moi je voulais
après,
parler avec toi.
Sur sa femme.
Simone, moi je veux parler avec toi d'un truc sérieux.
Ah.
Tu te rappelles, il y avait une qui a fait le tour du monde, là, vendredi. La une de voilà. Est-ce que ça a affecté un petit peu le vestiaire
Black Friday.
Est-ce que ça a affecté un petit peu le vestiaire de l'Inter, notamment Lukaku.
Ça a affecté, c'est-à-dire Lukaku, il a fait un communiqué en disant que c'est la pire et la plus bête une qu'il a jamais vue dans sa vie. Mais après, vous verrez demain les reportages qu'on a tournés sur Lukaku avec aussi quelqu'un de son entourage qui parle. C'est quelqu'un qui malheureusement a déjà été habitué à vivre des trucs racistes et il est en première ligne à combattre. Donc c'est une situation en plus qu'il a déçu, qu'il a un peu énervé. Mais au final, il a fait passer son message encore un point en disant qu'il n'a pas aimé, le racisme, il faut se battre. Après, ça a un peu déchiré tout le monde italien. Vous savez que les journalistes du Corriere dello Sport ne pourront plus accéder au centre d'entraînement du Milan et de la Roma jusqu'à la fin de l'année 2019. Donc, c'est quelque chose qui a frappé beaucoup dans le monde italien. Et
alors qu'eux, on dit qu'ils avaient mis ça pour mettre en valeur les joueurs.
Ouais,
c'est le Corriere a fait des éditos,
on fait plein d'articles. Et sûrement.
Le mec dit nous, on voulait les mettre en valeur, genre avec le jeu de mots sur le Black Friday. Ouais, genre, c'est les deux meilleurs joueurs de chaque équipe.
Ouais, c'est raté.
Et ça a raté complètement, quoi.
Ouais, super.
Voilà. Totalement raté.
Messieurs, sur la Ligue des Champions, y a-t-il une info qu'on n'a pas donnée qui est importante ?
Oui,
vas-y Fredo.
C'est quand même. On va dire rapidement un petit mot de Valence, quand même, dans le groupe de Lille, parce que Valence.
Oui, Chelsea, oui.
A besoin de gagner à Amsterdam contre l'Ajax pour se qualifier. Une équipe de Valence qui est décimée parce qu'il manque des joueurs aussi importants que le gardien Silsen. Guedes, Kondogbia, Cheryshev, Maxi Gomez, Garay. Des blessés, Garay suspendu. Donc Valence, c'est quand même très. Sera vraiment très très compliqué pour eux de se qualifier. Et puis attention, l'Atlético doit battre le Lokomotiv Moscou mercredi soir, mais pour être sûr de s'être qualifié, mais l'Atlético ne marque pas. C'est-à-dire que c'est la 14e, il est au 14e rang des attaques de la Liga. 16 buts marqués en 16 journées, un but par match. Donc c'est catastrophique. Et donc ils sont obligés de battre le Lokomotiv Moscou pour dépendre d'eux-mêmes et de qualifier. Mais moi je suis pas sûr qu'ils soient capables de marquer quoi. Donc c'est il y a vrai danger sur l'Atlético mercredi soir.
Il y a beaucoup de matchs en jeu dans cette dernière journée.
Oui, alors que souvent, Daniel, la dernière journée, il y avait juste une ou deux poules avec un peu de suspense.
Et alors là, c'est... Hein. Mais
tant mieux.
Mais Juju, le Chelsea là, que j'ai vu ce week-end, il fait pas un peu peur là par rapport à la Ligue des Champions?
C'est un peu compliqué, ouais. Une victoire lors des cinq derniers matchs pour Chelsea. Ils doivent, s'ils gagnent contre Lille demain à domicile, ils sont sûrs de se qualifier, peu importe du résultat entre l'Ajax et Valence, comme Fred vient un peu l'expliquer. Donc, ils sont quand même assez positifs. Ça devrait le faire, mais c'est vrai que ça joue moins bien. Ils font des erreurs défensives qui leur coûtent des buts, comme on l'a vu samedi contre Everton. Ouais.
Je crois qu'on peut
l'absence
les
de Tomori.
Je pense pas que Lille aille à Chelsea. Si Lille arrive à gagner à Chelsea après les scénarios de leur match précédent, quand même, ce serait.
Ouais, mais ils vont y aller sans pression, Gilbert. Eux, ils vont y aller sans pression. Ils vont vouloir s'amuser. Renato Sanchez, ça joue mieux. Osimhen, ça continue à marquer. Il connaît tout ça et côté Chelsea, il va avoir un petit peu de tension forcément.
M'inquiète pas.
C'est vrai, à l'extérieur, il a plus de mal. Mais non, ça devrait être un bon match. Ça va être intéressant à voir. J'y serai d'ailleurs avec Jean Baumel pour les commentaires.
Excellent.
Bravo.
Excellent. Dans quelques instants, on va parler de vos championnats respectifs. S'il y a parmi vous des fans des Drôles de l'âme d'Italie, d'Espagne, d'Angleterre, d'Allemagne qui veulent poser des questions aux Drôles de l'âme, c'est maintenant. Bien sûr, on se retrouve dans quelques secondes avec les Drôles de l'âme. Et ensuite, on parlera du musée de l'OL et le quiz qui sera sans doute ce soir de très très haut niveau. A tout de suite dans l'After en direct de Lyon.
RMC. L'After Foot en direct de Lyon.
Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est en direct à Lyon République, bien sûr, avec Frédéric Piquion, avec Florent Gautreau, avec Daniel Riolo, avec les Drôles de l'âme qui sont là. Tiens, un petit tweet de Benzema il y a quelques instants. Là, c'est pas pour soutenir l'OL demain, c'est pour parler de la sextape. Oui, c'est pas pareil. Et il dit la mascarade continue. Voilà ce que dit Benzema suite aux dernières décisions judiciaires sur la sextape.
Non, mais là, tu vois, là où il est, enfin, à mon avis, là où c'est con un peu, même pour lui, vu qu'on va vers un procès. C'est que tu peux pas dire d'une décision de la Cour de cassation, c'est une mascarade. Tu peux dire, je prends acte, je trouve que c'est injuste et je me défendrai devant le tribunal, mais dire de la décision de la Cour de cassation, c'est une mascarade. Non, on n'est pas une mascarade, c'est une décision comme ça dans le foot, déclaration d'un président, un machin. Mais bon, voilà, enfin, il a le droit, il peut dire ça. Mais à mon avis, c'est un mauvais calcul, y compris par rapport à l'éventuel procès qui arrive.
Revenons au championnat étranger. Anne, dans le public, là, veut poser une question sur Arsenal, je crois. Salut.
Oui, juste une petite question. Après, pour pas revenir sur le débat par rapport à Arsenal, qui fait en plus un petit peu penser à la situation lyonnaise. Où le club a effectivement investi sur son stade et on voit maintenant que la politique sportive s'est totalement perdue avec justement cette notion de faire du profit et d'oublier un petit peu ce qui est l'identité de ce club. Julien, est-ce que tu peux nous dire à peu près quels sont tes échos, si on va avoir un vrai entraîneur à Arsenal qui va arriver et vers quoi on se dirige vraiment, parce que là quand on regarde un petit peu, enfin au-delà de la situation sportive d'Arsenal, quel avenir pour ce club?
C'est une très bonne question. Alors déjà la bonne nouvelle,
Arsenal,
c'est qu'ils ont
gagné ce soir. Voilà,
c'est aujourd'hui, voilà, pour la première fois en deux mois. Exactement, pour la première fois en deux mois. C'est donc un jour très spécial pour Arsenal et ses supporters et ses joueurs. Ça va leur faire du bien aussi, hein. Première victoire en neuf matchs, après neuf matchs sans victoire, ça va leur faire du bien. Pour répondre à ta question, à la fin de la période Wenger et avant l'arrivée notamment du nouveau président du club, en tout cas du nouveau directeur général, il y a eu une restructuration du club avec l'arrivée d'Edu comme directeur sportif, avec l'arrivée de Raúl Sagnelli qui a longtemps été à Barcelone comme responsable en chef de toute la facette football au club. Ils ont fait cette restructuration qui était vraiment nécessaire parce que Wenger pendant 22 ans a fait tellement de choses que il y avait des manquements au sein du club dans la direction et dans la politique à suivre. Seulement ça prend du temps à mettre en place, pas simplement à mettre en place mais ensuite à appliquer une vraie politique sportive avec une certaine idée des joueurs que tu veux recruter, avec une certaine façon de jouer, un style de jeu que tu veux aussi appliquer pour ton équipe, et ça va prendre forcément du temps. Unai Emery, je pense, avait bien commencé notamment sa première saison, c'était une saison plutôt positive et puis ça s'est très mal passé cette saison-là, ils l'ont dégagé. Maintenant, pour moi, le choix du prochain entraîneur est vraiment crucial. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas se tromper une deuxième fois. Si tu considères que Emery, dans un sens, c'était une erreur, ils peuvent pas se tromper maintenant. La situation est trop compliquée. C'est un moment trop charnière.
Il faudra des choix
pour le club.
Aussi, Julien.
Et t'as raison, il faudra des joueurs après. Et ça, les joueurs.
Moi, je dis 70% de l'effectif. Hein.
Ça fait beaucoup.
Ou en tout cas améliorer. Peut-être c'est pas renouveler, mais en tout cas améliorer.
En championnat, tu regardes le 11 qu'ils ont, c'est un 11.
Est-ce qu'il y a des gros manquements Est-ce qu'il y a un gros chantier défensif? Oui, sûrement. Oui,
de ouais, carrément.
Est-ce que les joueurs veulent venir à Arsenal aujourd'hui, Julien?
C'est la question. C'est la question. Ça reste un gros club. Hein. Ça reste un gros club qui a des moyens financiers. Mais après, t'as raison. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas encore de Ligue des Champions la saison prochaine, est-ce que tu veux des joueurs qui viennent? Est-ce que c'est plus un tremplin pour atteindre des clubs plus importants ou c'est encore une progression? Je ne sais pas.
J'irai même plus loin, Julien. C'est que est-ce qu'un grand joueur viendrait aujourd'hui à Arsenal alors qu'il sait qu'il gagnera pas de titre?
Pas un grand joueur confirmé, mais un joueur qui a un Nicolas Pépé, par exemple.
Ne peuvent pas aller dans les 5-6 équipes en Europe qui gagnent des trucs. Parce que chaque année, il y a combien d'équipes qui gagnent vraiment des choses et qui peuvent vraiment aller au bout? En Angleterre, t'en as deux. En France, t'en as une ou deux. En Espagne, t'en as deux. Si tu veux, à chaque fois, le joueur doit se dire, c'est là que je vais gagner un truc. Faut qu'il se méfie aussi du calcul, parce que il y en a pas tant que ça des équipes qui peuvent réellement prétendre à des choses.
Petit tour d'Europe rapide, les gars. Info importante en Allemagne qu'on n'a pas donné sur la Bundesliga, le plus important, Polo.
Bah, il y avait le choc ce week-end, écoute, on n'en a pas parlé.
Mönchengladbach, Bayern Munich. Et c'est évidemment l'info numéro 1 en Allemagne, c'est la nouvelle défaite du Bayern. En plus à Mönchengladbach, donc c'est évidemment très important pour l'histoire des deux clubs. Plus que la victoire de Mönchengladbach, c'est surtout le Bayern qui, pour la première fois de la saison, n'est plus dans les places européennes. Et surtout, c'est la méthode. C'est-à-dire que comme la semaine dernière, Bayern domine complètement, par exemple, la première mi-temps et finalement perd le match, comme Leverkusen la semaine dernière. Donc c'est un peu compliqué parce que le Bayern a été largement au-dessus, notamment en première mi-temps. Ils ont un problème d'efficacité devant le but qui est chronique. On a Lewandowski qui ne marque plus du tout. Et puis il y a un scénario complètement fou qui fait que Mönchengladbach, une fois de plus, et c'est ce qu'ils font aussi en Coupe d'Europe, et ben revient grâce à Ben Sebaini, évidemment, qui est le héros de cette rencontre. Et en plus dans les arrêts de jeu, puisque Thuram réussit à aller chercher, à accrocher un penalty, bon, qui évidemment n'existe pas, mais ça c'est pas grave, ça permet à Ben Sebaini.
Non, le penalty il existe, Polo.
Ah non,
le penalty, il existe. Bah, Rami Martinez se relève même pas, il sait qu'il a fait faute.
Il va sortir,
il sort.
Il se relève, il sait déjà qu'il y a péno.
Ce qu'a fait Thuram.
Comment il s'appelle, Kimmich à côté de lui, carrément le regarde, genre gros con, qu'est-ce que ce tacle.
Non, mais ce que veut dire Polo, et il a raison, c'est que Thuram n'a fait que toucher le ballon avant. Pour oui, mais être après, touché découpé. Et derrière il y a contact et effectivement le joueur sort.
Ouais, c'est le seul truc que Thuram a fait de bien dans ce match.
Il a fait trois duels contre le pré-retraité Boateng.
Qu'est-ce qu'il est méchant.
C'est
sa première saison. Laissez les gens
faut arrêter. Je veux dire les VRP.
Les
VRP de la Cocarde en France, ça va 5 minutes quoi. Les VRP de la Cocarde, c'est bon quoi. Dès que des mecs vont une tricolore, c'est ça va, faut regarder un petit peu l'ensemble des matchs.
C'est pas vrai.
Cela dit, Polo, si vraiment il était si catastrophique, il ne jouerait pas. Il serait pas titulaire.
C'est pas parce qu'il s'appelle Thuram qu'il joue. Alors ça veut dire qu'il s'appelle Thuram, il joue.
Non, moi ce que je trouve,
je suis pas à ce niveau-là.
Sur ces histoires, bon, Pléa en ce moment, sur le duo qui est là-bas, Pléa me semble avoir beaucoup plus de qualité que Marcus Thuram, mais lui va pas bien parce qu'il est blessé, il revient de blessure et tout, et il est encore moins bon que Thuram sur le match. Moi, ce que je trouve formidable pour eux, en tout cas, et pour un Thuram, c'est de le voir à ce point prendre du plaisir. Il est dans une équipe qui, a priori, n'était pas destinée à jouer le titre, et qui va probablement jouer le titre parce qu'ils sont dans une dynamique assez incroyable. Et que ce match-là, je le vois, je me dis, bon, le Bayern, ils vont finir par donner la leçon, montrer qui est le plus grand, qui est le plus fort. Et ils arrivent à perdre le match, et Gladbach a inversé la rencontre et à le gagner. Et je vois Thuram, mais généreux dans l'effort. C'est vrai que parfois je trouve pas que ce soit un cador, mais en tout il essaye de provoquer. C'est vrai qu'il a tout le temps un petit peu la même façon de faire, c'est pas la grande finesse technique, mais il y a une générosité chez lui, il a envie, et c'est Pléa, c'est pareil. On a l'impression que les mecs ils passent la frontière, tous les matchs ils sont à fond, ils sont pris dans la dynamique de ce championnat, parce que t'as une belle ambiance dans le stade, parce que tous les joueurs sont à fond sur 90 minutes, et qu'ils arrivent d'un championnat où on joue un match sur deux, une mi-temps sur deux, 70 minutes au lieu de 90. Et ça, c'est commun, pas qu'à lui. Là, on parle de ça parce que effectivement, c'était le match du week-end. Au-delà de ses qualités, à Marcus Thuram, c'est peut-être pas un crack, c'est certainement pas un crack, mais en tout cas, il s'éclate. Il s'éclate et il est important. Dans une équipe qui est en train de faire un truc formidable en Bundesliga. Et ça, c'est vachement. Ça, c'est moi, ça me désole pour notre Ligue 1 et pour notre mentalité chez nous. Et ça me rassure parce que je me dis bah, au moins ces mecs-là vont prendre du plaisir ailleurs quoi.
Sachez que jeudi soir on aura un after de 3h parce qu'il n'y a plus d'Europa League. Enfin il y a de l'Europa League mais il n'y a plus d'enjeu, donc on va faire un after de 3h.
Il y en a mais pas pour nous quoi.
Donc
ça nous
tous les sujets
pas.
Qu'on n'a pas pu aborder ce soir avec nos drôles de dames, on le fera jeudi hein. On reparlera de la Juve et puis on fera un petit bilan Ligue des Champions
dans tous les pays. La Juve a perdu ce week-end, ouais. Il faudra en reparler.
On sera de retour dans notre studio, on aura plus de temps pour
faire un bilan première partie
tous.
De saison radio quand même.
Derby de Manchester.
Il n'y a rien à dire.
Merci les drôles de dames. Et Polo, à demain au stade. Hein. Ça va faire bizarre.
Si j'y arrive. Si j'y arrive. Hein, si j'y arrive.
Oh, si attends, tu vas te débrouiller.
Pourquoi mais là, oui, non, mais là, la distance est pas si
longue. Tu peux le faire à pied.
Je vais pas venir à pied.
La
Saint-Élion, c'est deux nuits en courant.
Dans la neige. À demain, Polo. Tout de suite sur Maillot.
C'est un peu plus
calme sur RMC avec Winamax.
Winamax, les meilleures cotes.
Ce Survivor est légendaire. 8 qualifiés qui ont tous eu juste. Lille avait dit Kevin Diaz.
Juste la fois où je suis éliminé, ça va loin ce truc-là.
Voilà. Laure Le Payeur avait dit Lyon. Bravo Laure. Qu'est-ce que j'ai encore du Monaco.
Que j'ai été puni parce que j'ai joué Saint-Etienne.
Ah, c'est ça. Florent Gautreau avait dit Monaco. Bravo. Tout comme Ludovico Bragnac, Nicolas Jamin, moi. Voilà. Et puis tiens, il y avait Lionel Charbonnier avait dit Nantes. Bah, il a juste aussi. Donc
à l'arrache, il a eu.
Prochain Survivor, jeudi.
L'afterfoot sur RMC avec Winamax.
Winamax, les meilleures cotes.
Jusqu'à Noël,
tous les shows de 4h30 à minuit.
C'est le grand Noël RMC.
Et on a notre gagnante du soir, elle s'appelle Corinne, elle a été tirée au sort. Bonsoir Corinne.
Bonsoir.
Salut Corinne. Ah, y a quelques Lyonnais là qui te saluent.
Salut Coco.
Ouais, salut les Lyonnais.
Corinne, je t'annonce que tu as gagné pour Noël un smartphone Huawei ProLite 20.
Voilà. Eh ben écoute, super.
Un joli téléphone mal, pour
ça.
Noël.
Eh c'est ben, sympa.
Et, cette année, on ne fait pas les boules et le sapin, Gilbert.
Merci Corinne d'avoir joué.
Salut Corinne.
Merci
Corinne.
À vous, bisous.
Salut Corinne. Bonne soirée. On n'a pas le sapin avec les boules cette année.
Non, on a changé de principe. Maintenant, on envoie.
Non, le sapin, c'était mieux quand même.
Ils sont là.
Avec les petites boules, avec nos photos à l'intérieur des boules.
Ouais.
Moi j'aimais bien ça.
Ouais. Ah oui, mais en fait il y en a un de sapin, mais sauf que là, comme on n'est pas en studio, c'est un peu compliqué.
Ah, mais on l'a
en studio.
Ah, il a été installé.
Il a été installé.
Ah, bah j'ai pas vu qu'il était installé.
Dans quelques instants, le quiz, le musée de l'OL au programme. Messieurs, dames, attention, ça va être très chaud. C'est tout de suite dans l'after.
RMC,
l'after foot en direct de Lyon.
Gilles Darbribois.
Jusqu'à minuit, on est là. Avec toute l'équipe, avec Fred Kikion, avec Laurent Gautreau, Daniel Riolo, Edouard G. Thierry des Rouges et Bleus. Alors là, je vous demande un peu de calme. Je vous demande un peu de calme. Et surtout, on va faire un petit test. Qui parmi vous dans la salle, ici au République, a déjà mis les pieds au musée de l'OL? Eh bien, vous n'êtes pas nombreux, très franchement. Et ça, c'est pas normal. Et on accueille son créateur, son patron. Stéphane Bénas est avec nous. Bonsoir, Stéphane.
Bonsoir.
Stéphane, t'as vu ça là sur la maille, il n'y avait même pas 5% des gars qui sont au musée là, c'est pas possible.
C'est le terme musée qui doit faire peur.
Ah oui, parce que alors moi
nous, on l'a fait ensemble.
C'est vrai, moi j'ai visité le musée grâce à Stéphane qui m'a fait une visite privée et c'est top. Voilà.
Ça a permis quand même à Jérôme Rotten de s'approcher de la Coupe de France 2008.
Oui, exactement.
Vous savez pas pourquoi je voulais le prendre en photo à côté. Il l'a fait, ouais.
C'est vrai qu'il est passé devant comme ça de façon un peu rapide.
Ouais.
Voilà. Peut-être que tu l'as traumatisé.
Oh, celle-là, il a mérité. Faut dire ce qui est.
Ouais, mais le titre de champion avec Monaco, il l'a approché de près aussi dans le musée. Et là, il a tiré un peu plus la tête.
C'est différent.
Alors, tiens, un mot. Raconte-nous un peu le musée. Alors, les gars qui n'aiment pas les musées, parce que voilà, vous dites, oh, pourquoi j'irai dans un musée? Déjà, ça peut apporter quand même un peu de culture, c'est pas mal. Un peu de connaissance. Mais le musée de l'OL, c'est une vraie expérience interactive.
Ouais, nous, on a travaillé sur quelque chose que vous avez évoqué pendant l'émission, en tout cas, sur la notion d'émotion. Donc la dimension humaine du football, la dimension émotionnelle. Qu'est-ce qui nous rapproche d'un club? Gagner, c'est pour beaucoup une finalité, surtout pour les inspecteurs des travaux finis. Mais en fait, on a essayé d'aborder ça avec beaucoup plus d'humilité, avec des yeux d'enfant, en disant pas avant c'était mieux, mais en laissant la même place à chacun. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a disputé, c'est le record, 12 minutes sous notre maillot, a exactement le même espace dans notre musée que Serge Chiesa qui a fait 542 matchs.
Ou que Fred Piquion.
4 buts, Fred. Passeur décisif pour Fred en Ligue des Champions. On en a parlé tout à l'heure.
Qui a marqué 542 buts, Serge Chiesa?
Non.
Pas parti?
Non, 542 matchs.
542 matchs.
Passeur décisif pour Fred en Ligue des Champions, buts, il s'appelle Karim Benzema.
C'est ça.
Voilà.
Il avait. Ouais.
Bravo.
Face à la Fiorentina.
on a essayé de parler à tout le monde et on a essayé de que chacun se retrouve à travers des voix, des sons, des ambiances.
Il y a même des expériences. Il y a un truc moi que j'ai adoré, c'est des images que vous avez retrouvées pour le musée. Des trucs, notamment une causerie de Coupe de France, de, ouais. de Coupe de France des années
dans
60.
Le Parc des Princes en 73,
dans
on se retrouve.
Le Parc des Princes encore en briques là.
Ouais.
Ou alors là, t'as un gars qui parle, mais tu te croirais dans un film d'Audiard quoi.
C'est les tontons flingueurs, ouais. C'est voilà. Jean-Pierre Capon, notre ancien directeur sportif, ouais. Il va falloir distribuer à volonté, hein, à discrétion.
Voilà. Voilà, le gars il dit ça avant le match. Il va falloir distribuer à discrétion.
Ouais, c'est...
Mais on avait Domenech en face, il a dit OK.
Ouais, c'est.
Ah, lui il distribuait sans discrétion.
Mais on a, oui, et puis on a pu recréer aussi cette expérience totalement incroyable où vous êtes projeté comme joueur de l'OL à la mi-temps d'un match. Donc ça, on a profité de nos amis de Kaamelott de la série qui ont géré une attraction.
Ils sont lyonnais, évidemment.
Absolument. Une attraction de A à Z et vous avez des fantômes shakespeariens qui viennent s'adresser à vous à la mi-temps d'un match qu'on est en train de perdre et il se passe un truc. On parlait d'émotion, nous on ressent quelque chose de très fort.
Un supporter de l'OL doit obligatoirement aller au musée.
Mais pas simplement finalement les meilleurs compliments.
Non, mais au minimum.
Absolument, mais
en plus c'est au stade donc c'est pratique.
Mais les meilleurs compliments ils viennent souvent des équipes adverses qu'on reçoit et puis c'est un lieu surtout d'un terme dont on parle pas beaucoup qui est la transmission. Ce qui veut dire que chaque année, en début de saison.
Dans on ne parle que de ça.
Et moi, par exemple, je reçois chaque catégorie d'âge de l'Olympique Lyonnais du centre de formation pour que chacun comprenne que porter un maillot, ça a une dimension émotionnelle.
Absolument.
Que tous ces enfants, quand ils deviendront pour, en fait,
c'est très bien. C'est
connaîtront important. D'autres maillots, mais que chaque maillot a sa spécificité.
Est-ce que les joueurs aussi viennent au.
Bien sûr.
Même les recrues aussi.
Obligatoire.
Bien,
mais
les anciens,
on les attend aussi.
Dis-moi juste un truc. Tu me disais que
demain.
République
pour moi,
où on est ce soir a eu son importance dans l'histoire de l'OL.
Non, mais c'est dans ce quartier que c'est créé. En fait, notre club, il s'est créé Place Bellecour, donc juste derrière. Et voilà, on sait où on a été créé, on sait par qui. On aura 70 ans l'année prochaine, et on est en train de réfléchir à tout ça, évidemment.
Tiens, d'ailleurs, j'ai lu que l'Hôtel Dieu en face, l'un des médecins les plus célèbres de l'Hôtel Dieu, c'était Rabelais. Voilà, c'est pour la culture des Lyonnais. Hein. C'est ceux qui savent pas.
Et Rabelais, il est Tourangeau.
Rabelais, il n'a pas joué latéral gauche.
Et Tourangeau.
Il est Tourangeau.
Ah oui.
D'accord. On est prêt pour le quiz ?
Allez, on est prêt.
Jingle quiz.
Non, mais c'est naze ce quiz. Vas-y, coupe-moi le micro, je joue plus.
Ah. Oh, Jérôme, arrête de chialer.
Alors, c'est de la merde.
Bon, c'est Jérôme Bretagne, du coup, il n'est pas venu. Alors, Stéphane, deux équipes. Une équipe dite équipe Priolo, avec Édouard G, Thierry, et le quatrième s'appelle Jean-Jacques.
Qui paraît-il est une Bible.
Jean-Jacques paraît-il, on verra.
C'est la Bible.
Une équipe Bribois composée de Fred Piquion, Florent Gautreau, ton prénom ? David, avec
oui,
le micro.
Il faut prendre le micro, David.
David, salut David.
Voilà.
Et moi. Stéphane, je compte les points.
Ok.
Et je joue en même temps. Hein. Donc attention, soyez tous très attentifs.
Et Stéphane, tu caches là.
Hein. Ouais,
alors. Non, pas, moi, je suis pas
Stéphane, fait. Tout le monde voit, c'est pas possible.
Première question, question rapidité.
Ouais.
On va chercher le nom de famille du premier buteur de l'histoire de l'OL.
Quelques-uns.
Oh là là. C'est le nom de famille, c'est un des amis de Daniel.
Duprat.
C'est l'arrière
Duprat.
Petit.
Mais ça a été dit déjà.
Ouais, c'est ça.
Edouard a dit Duprat.
Donc Georges Duprat, Pascal est l'arrière petit neveu du premier buteur de l'histoire de l'OL.
Ah mais attends.
Très bien. Voilà.
Attention, tu peux enlever ton portable, Edouard, s'il te plaît.
Non,
mais tu le retournes. Tu
non,
le retournes.
Mais Edouard,
merci. 1-0 pour l'équipe
Rio. Non, mais c'est pour la suite.
Hey, t'hésites pas à prendre le micro, hein, Jean-Jacques.
Oui,
Jean-Jacques,
oui, prénom. Deuxième question rapidité. Sur les 100 buts inscrits par Juninho sous le maillot de l'OL, combien ont été inscrits sur coup franc ?
44. Bien joué, David.
44. Oh. Non, il l'a dit.
En premier. Non.
Il a dit 44.
Non, c'est 47 là.
C'est David. C'est David qui l'a dit en premier.
47.
Un partout. 44 coup franc.
44. Allez, vas-y.
Mais il a dit 44 ou 47 ?
44.
44.
Il a dit 47.
On y va.
Question équipe par ici.
Ah. Que pour nous.
Dans lequel de ces pays les joueurs de l'Olympique Lyonnais n'ont-ils disputé aucun match officiel ? 1. La Slovaquie. 2. La Slovénie. 3. Le Monténégro.
Monténégro.
4. Les États-Unis.
Monténégro.
Attends,
on ne répond pas.
Match officiel. États-Unis, c'est fait. Trophée des champions, tout ça là.
Ouais.
Slovénie, c'est fait. Ils se sont fait sortir par Maribor.
C'est juste tout le territoire.
Donc c'est soit Monténégro, soit Slovaquie.
Monténégro.
Monténégro.
C'est une bonne réponse.
Ah ouais, on est là.
Bien joué.
Un point.
Question équipe à ma gauche. Citez les trois prénoms qui ont joué avec l'OL en portant le nom Ferry.
Alors attendez,
Jordan, Patrice.
Alors attends, Jordan 1.
Jordan, ouais. Patrice Ferry.
Ouais, Patrice Ferry.
Et
Jules Ferry. Jean-Michel.
Eh bien, bravo.
Ah, le dernier, c'est qui?
Jordan, Patrice et André.
André Ferry. Ah bon, joli André Ferry. André Ferry. La Viking.
Il y avait Jules Ferry aussi. Mais...
Question. Une question culture générale.
Ah, deux. Il y a deux.
Pour tout le monde. Pour tout le monde.
Ouais, pour tout le monde au-delà du foot. Quelle est la particularité du match amical de l'OL face à Annecy le 12 juillet 1992? C'est la date qui est importante.
Le quoi? Le
12 juillet 1992.
C'est l'anniversaire la
coupe
du monde.
Club. Ah non, bah non, je suis con, 12 juillet 92, non.
L'anniversaire de l'OL.
Non. La question culture G.
C'est le jour où était annoncé la...
C'est une règle de foot.
Ah oui, c'est la passe entrée au gardien.
Bravo.
L'interdiction de la passe entrée au gardien.
Premier match avec l'interdiction de la passe entrée au gardien.
Bravo Flo.
Bravo Flo.
Alors là,
3-2.
Là, c'est de la culture.
Et du coup, qui était le gardien de l'OL
en 1992 au match amical?
Pascal Olmeta.
Gilles Rousset.
Oui. Gilles Rousset. C'est lui qui était le premier, donc.
Le père de Laurent Rousset.
Il voulait pas qu'on donne les ballons à Rousset, c'est pour ça. Ils ont...
question équipe. Là, je vais à gauche. Ah. Est-il vrai que les supporters stéphanois ont chanté Allez l'OL à Geoffroy Guichard?
Oui.
Ah bah oui.
Ouais, mais
à quelle occasion?
Oui.
Ah ouais.
Jean-Jacques. Bah, quoi?
C'est sur Jacques, quoi!
La réponse est oui!
Oui! Oui! Non, non, à quelle occasion?
Ah, non, non!
C'est une histoire de maintien, mais je me souviens pas bien. Parce que ça permettait à l'OL de se maintenir.
Bah non, à Saint-Étienne.
Ah, bah non!
À l'inverse.
Non, c'est, ils espéraient. Une victoire de l'OL permettait à Saint-Étienne d'espérer la montée.
Voilà.
L'OL a gagné, mais Saint-Étienne pas
non,
montée.
Non, mais Stéphane, mauvaise réponse alors!
Ah oui, il a dit l'inverse.
Il a dit l'inverse.
Allez, mauvaise réponse.
Mauvaise réponse. Au revoir.
Combien?
Non, les gars, qu'est-ce que vous faites là?
Il est
combien
là? 3-1 toujours?
3-2 bizarre, pour l'équipe.
Elle est bizarre cette question.
Non, non,
elle est
bizarre.
Elle est bizarre. Question sur ma droite, chaque question d'équipe. Est-il vrai que l'Olympique Lyonnais a le record d'affluence d'un match de Ligue 1?
Moi je dirais oui.
Mais pourquoi?
Parce que c'est le plus grand stade aujourd'hui. Bien sûr.
Contre Saint-Etienne?
Et dernière.
Bah, on dira oui.
Oui, dans le nouveau stade.
Oui, et pourquoi?
Bah oui, parce qu'aujourd'hui Lyon a le plus grand stade en Europe pour la Ligue 1.
C'est une mauvaise réponse.
Ah, c'est Marseille.
C'est parce que le match a eu lieu au Stade de France entre Lille et l'Olympique Lyonnais.
Ah oui,
ah oui.
Oui. C'est pas Marseille la plus grosse affluence?
Non, justement ils l'ont dit il y a trois semaines.
Non, mais dans un stade, c'est à Marseille la plus grosse.
Mais il me semble que le Stade de France est un stade. Non?
Non, mais dans un stade qui appartient à un club.
3-2 oh, toujours
non,
pour
non,
nous.
Non, non, c'est bien joué, c'est bien joué.
Allez, j'en ai une, ça va être chacun son tour et je commence là avec Daniel.
Ouais. Bon,
citez,
les gars, ouais, oh.
Citez-moi. Donc vous allez avoir plusieurs.
On joue pas, nous?
Très bien. Chacun son tour, on commence là. Ouais. Citez-moi les clubs français qui ont disputé plus de matchs européens que l'Olympique Lyonnais. Et on commence avec Daniel.
Attends, il faut qu'ils en citent un.
Bah, chacun son tour, oui. Vous en citez un.
Mais qui?
Plus que Lyon?
Plus que Lyon.
Plus que 266.
Oh.
Donc, attends, 260.
Chacun.
Coupe d'Europe.
Plus que Lyon, Paris. Ou zéro.
Zéro, je pense.
Bah, il n'y en a pas, en fait.
Zéro. Ah, c'est bien.
Bonne réponse.
Défait, d'ailleurs.
Ouais, non, j'étais en train de réfléchir.
Demain, ce sera le 266e match. Il n'y a eu aucun club.
Ah ouais.
Le deuxième, c'est Paris Saint-Germain avec 219, je crois. Donc 50 matchs derrière.
Il y a Strasbourg avec 210, mais.
Allez, on recommence chacun son tour, on part là.
3-3.
Chacun son tour, on part là.
Pourquoi chacun son
tour? On va citer les 20. Chacun comme ça, on va citer les 23 champions de France 2002, du premier titre.
Ah, c'est chacun doit en donner un?
Voilà.
Alors moi, je dis. Grégory Coupé.
Ok.
Donne-en un, Fred.
Ça, on joue pas, nous, ça.
Si, si, chacun votre tour.
Nous, on joue, nous.
Non, mais chacun votre tour.
Sidney Govou.
Oui, Sidney Govou.
Coupé.
Non, tu l'as
déjà donné, oui.
Grosso.
Grosso.
Mais j'avais de la vie.
De quoi?
Mais Grosso, il est arrivé. Il arrive après la Coupe du Monde 2006.
Ah. J'ai pas entendu la date.
De Flandre, j'en sais
rien. Premier titre.
Ah, le premier titre, j'ai pas entendu le dernier. Ah non, j'étais au dernier.
Delmotte.
Vous allez prendre un joker.
Delmotte. Delmotte,
oui.
David.
Marc Vivien Fauré.
Marc Vivien Fauré,
oui.
Hop, ça fait un point pour nous.
Vas-y.
Ah bon, continue.
Ouais. L'aigle.
Oui, l'aigle.
Non, on
oui.
l'a dit, l'aigle. Déjà dit.
Déjà
non.
dit.
Non.
Allez-y, continuez chacun votre tour.
Philippe Violo,
oui. Eric Carrière. Eric Carrière, oui.
Bah, Juninho.
Juninho, oui.
À nous.
Oui.
Donc, il y a un point chez les Riolo. Edmilson.
Edmilson, oui.
Qu'est-ce
qu'il remplaçant?
Hein? Pas
de carton?
Non.
C'est perdu.
C'est perdu. Bah, vous aviez encore Sonny.
Sonny Anderson, on l'a. Sonny Anderson, on l'a. On a gagné.
C'est fini.
On a gagné là.
Non, t'inquiète.
Calmez-vous, calmez-vous.
Le dernier titre, moi.
Bon, j'en ai une petite là aussi.
Attends, je fais un petit point score.
4-3,
c'est simple.
L'équipe Riolo à 5 et nous on a
4-3.
On est devant.
5, 4 ou 4-3, c'est pareil. Vous avez 5, on a 5.
On est devant.
Allez, une question rapidité. Ah. Attention
pour
à
tout le monde. Alors.
Jean-Jacques, sois rapide. Hein. Attention à l'intitulé.
Pour tout le monde.
On va parler d'un nom de famille. Le père est arrivé argentin et est devenu international français. Oui, c'est bon. Donc,
Angèle Lambert.
Le père d'Angèle. Angèle est arrivé argentin et devenu international français. Et le fils est né français et devenu international argentin.
Très bien, on a gagné.
Angèle
Lambert. Bravo Jean-Jacques. Bravo Jean-Jacques.
Champion avec Olympia cette nuit d'ailleurs au Paraguay.
Bravo. 6-4. Avec Roque Santa Cruz dans l'équipe d'ailleurs.
Oui, exactement. Cette nuit, j'ai regardé le match. Ouais. Aussi.
Voilà. Bravo.
Qui est le premier.
Attends, c'est pour tout le monde là.
Rapidité.
Très bien. Vas-y.
Qui est le premier buteur de l'ère moderne, c'est-à-dire de l'ère Jean-Michel Aulas, en première division?
Cabongo.
Non.
Rémi Guerme.
Non.
Cabanias.
Non.
Balmont.
Le premier but a été inscrit par.
En 80.
Mais qu'est-ce que t'appelles l'époque quand Aulas reprend le club?
Le premier match en première division.
Genesio.
Bruno Genesio.
Bruno Genesio.
Ça a été dit ici.
Ah oui,
c'est
là,
c'est donc.
Bien joué Jean-Jacques. Il est fort Jean-Jacques. Hein.
6-3, hein, c'est ça?
Ouais.
Non
ouais.
7-4 pour moi.
Chacun
7-4.
Son tour et on va commencer avec toi Gilbert.
Alors, il reste 1 minute 30.
6 joueurs qui ont gagné l'Euro 84 sont passés avant ou après l'Euro à l'Olympique Lyonnais. Qui sont-ils?
L'Euro 84.
L'Euro 84.
Ah, c'est à nous. Bernard Lacombe.
Non mais chacun son tour, donc
chacun
commence.
Tour. Alors bah, bah moi donc
il y en a 6.
Bernard Lacombe.
Bernard Lacombe, c'est vrai.
Oh là 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 là.
Euro 84.
Bellone.
Non.
Non.
Perdu. À vous de
côté. Non,
Joël Batz.
Joël Batz, oui.
Jean Tigana.
Oui.
Tigana,
on l'a dit. Oui.
Ah ben non, ils l'ont déjà dit.
Ah, ils l'ont dit, bah, c'est à nous alors.
Ouais.
C'est à nous, c'est rapproché nous.
Il en reste 3.
Amoros.
Amoros, oui.
Ah,
il en reste 2.
Oh, attends, c'est à nous là encore. Hein.
Un buteur en demi-finale contre le Portugal.
Domergue. Ah, mais là, c'est trop facile comme indice.
Bah,
ah, vas-y, je veux un indice de.
Et le dernier indice.
Attends, c'est pour nous, hein, c'est chez nous, la main est chez nous, là.
Et pourquoi la main est chez toi?
Non,
mais
Domergue,
non, c'est une équipe comme ça, voyons. C'est...
Non, c'est chez nous, le dernier, il est chez nous.
Bah, c'est qui?
Alors, le dernier, c'est qui?
Un milieu offensif.
Mais pourquoi ce serait chez vous?
Bah, parce qu'on est en train de le dire.
Ferreri.
Non.
Ah, non.
Ah, merde, voilà, c'est à vous, alors.
Un milieu offensif.
Il n'y a pas de VAR dans l'after, messieurs, dames. C'est bien connu.
Un milieu offensif.
Non.
Qui a fini milieu défensif?
Non.
Je sais. Attends.
Non, je vois pas.
En équipe de jeunes?
Je vais te le dire.
En équipe de jeunes?
Non, il a commencé 10 et il a fini 6.
Est-ce qu'il est passé par là en équipe de jeunes?
Non.
Ah, je l'ai.
Bravo. Daniel Bravo.
Ah oui, Daniel.
Ouh,
Daniel Bravo, le point est là.
Bravo.
10-6, c'est ça qui m'a.
7-6, on a perdu quand même. Hein. Victoire de l'équipe Riolo.
Bravo,
Bravo Jean-Jacques, il a tout fait. Vous avez rien foutu, c'est Jean-Jacques qui a tout fait.
Bon, non, pas du tout.
Bah,
il faut toujours un taulier dans une équipe.
On menait 7-4.
Et moi, je notais sur la feuille. J'étais défenseur.
Très bon recrutement de
Merci
Daniel.
Merci Stéphane.
À la dernière minute.
Allez tous au musée de l'OL, vous retrouverez toutes ces stats. Merci à tous d'être venus ce soir. Merci aux Républiques de nous avoir accueillis. Et on espère tous la qualif demain, bien sûr. Merci Fred, Florent.
Merci à tous.
Daniel.
Bonne soirée.
Merci.
Et à demain soir dans l'after en direct du stade. Bye bye.
RMC, l'After Foot en direct de Lyon.